9h, à la porte du bureau de Par Jupiter.
Je te l'ai dit, Juju, tu sais l'autre.
Mais je t'assure que pas.
Mais si, on en a parlé.
Oh, Charline, Juliette, qu'est-ce qui se passe?
Oui, évidemment.
C'est l'heure, là, vous êtes où?
Doucement, Guillaume.
Mais allez, là, au boulot.
Oh, doudou, bijou.
Non, mais moi, ma chronique, elle est prête, hein. Allez.
Guillaume, aujourd'hui, on commence la deuxième semaine de Florilège, du calme.
Quoi? Mais le bande de feignasses, mais vous avez pas eu assez de grève?
Mais enfin, Guillaume, c'est les fêtes de fin d'année, on se repose.
Mais pourquoi vous êtes là, alors?
Bah, on vient voir si tout se passe bien.
Et puis, c'est pas vraiment nous. On est des hologrammes.
Voilà.
Ah bon? Ah bah alors je peux passer à travers vous comme ça?
Aïe, tu m'as enfoncé un sein.
Guillaume, arrête, tu lui enfonces un sein. Encore une semaine et là tu reviendras à l'école.
Non mais c'est long, je m'ennuie là.
Mais on s'en fout, tu rentres chez toi, espèce de petit sac à novice.
Non mais allez, juste une petite chronique
non,
comme ça.
Non Guillaume, c'est non, voilà, on ne brise pas une grève, on ne brise pas une trêve non plus.
Non mais une toute petite chronique.
On n'existe pas. Tu rentres à la maison, allez hop.
Ah bon, à demain alors.
Chut.
France Inter, vous écoutez l'émission qui emprunte la luge de l'actualité pour dévaler les pentes de la blague. Et pour nous donner de l'élan, deux invités pleins d'énergie. D'abord la chanteuse Aloïse Sauvage sur un sujet qui est un peu notre marotte, hein, l'ubérisation toujours plus forte de la société, puisque maintenant les livreurs se retrouvent parfois à vélo sur le périphérique pour livrer des nouilles. Et puis Aloïse écrit-elle encore à la main? C'est de plus en plus rare et c'est même l'école le dernier bastion de l'écriture manuscrite. L'autre invité énergique, c'est l'économiste Thomas Piketty à propos de la propriété partagée, entre guillemets partagée, puisque tout ce qui est partagé aujourd'hui se monnaie. Le partage est une marchandise. On le questionnera aussi bien sûr sur son dernier livre, Capital et idéologie. Juliette Arnaud, qui avez-vous choisi pour ambiancer cette heure qu'on va passer ensemble?
J'ai fait comme vous avez dit, j'ai fait les énergiques. Alors donc, il y aura Pablo Mira qui s'interrogera sur pourquoi est-ce que Free a coupé les chaînes de RMC. Guillaume, la vraie terreur de ce début de 21e siècle, évidemment l'enfant Greta Thunberg. Et Thomas VDB qui s'inquiète du réchauffement climatique. Et on ne finit jamais, jamais, jamais une émission de best-of sans notre chanteuse.
Attention, on dit florilège, nous. Attention.
Oulala.
Et donc, Frédéric Fromet
Frédéric,
un indice
Un indice sur de quoi il parle?
Ouais.
Et à revoir avec la prison et à voir avec Levallois.
Très bien. Ah, je vois, je crois. Allez, place aux jeunes. Voici Aloïse Sauvage.
France Inter, Charline Van Macker, Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue Aloïse Sauvage.
Merci.
Alors les auditeurs vous connaissent bien car vous faites partie bien sûr de la playlist France Inter. Moi c'est comme ça que j'ai découvert ce que vous faisiez. J'ai d'ailleurs écouté en boucle tout l'été. C'est un EP avec 5 titres et qui incite à écouter, à réécouter, à réécouter. Comme la famille de jeunes artistes à laquelle vous appartenez aussi, hein, sur la playlist France Inter, il y a L'Homme Pâle, Angèle, Roméo Elvis. Ça fait partie d'une forme de fratrie un peu, on peut dire.
Je les ai pas tous rencontrés, mais forcément on se suit, les réseaux aidants. Ouais. Et puis, après, je sais pas si c'est générationnel, je peux parler que pour moi, mais en effet, on nous associe, voilà. Ouais. Bon, voilà.
Après, je vous ai...
Il y en a que vous aimez pas vraiment.
Non, après, il y en a que j'écoute pas forcément, dont la musique ne me touche pas. Mais ceux que vous avez cités, non,
oui, c'est une génération.
Tout va bien. Voilà. On se soutient pas mal d'ailleurs, donc.
Plus largement, vous appartenez, même si vous n'avez pas le désir de cloisonner, vous appartenez à un mouvement qui s'appelle le rap. Et le rap, mine de rien, c'est un courant qui est hyper jeune. Le rap féminin, c'est encore plus jeune. Grossièrement, pour les plus vieux auditeurs de France Inter, on va dire que d'abord, il y a eu Missy Elliott, née dans les années 70. Voilà, donc là, normalement, tout le monde se dit « Oui, je vois ». Ensuite, il y a eu en France et né au début des années 80, il y a eu Diams.
Et évidemment.
Et puis maintenant, vous arrivez, vous êtes né à peu près dans les années 90, que ce soit vous, Roméo Elvis, L'Homme Pâle. Est-ce que c'est des modèles que vous avez quelque part dans votre viseur ou dans vos souvenirs? Est-ce que ce sont des références? C'est deux femmes.
Oui, Enfin, j'ai toujours du mal avec les modèles, les références et tout. Dès qu'il s'agit de figer une réponse, moi, ça m'angoisse un petit peu. Je suis compliquée dans les choix, mais même pour choisir entre la salade thaï et le burger avec plein de fromage.
C'est votre côté macroniste un peu. Il y a du en même temps.
Je ne sais pas. Mais en tout cas, Missy Elliott, ouais, ça me parle. Moi, j'ai commencé donc très jeune le breakdance et puis je dansais sur ces sons, sur Busta Rhymes, voilà. Donc moi, je suis pas bilingue, désolée. Et Michael Jackson et puis Jam. Ouais, évidemment, j'ai beaucoup écouté. Donc plutôt dans mes souvenirs, en tout cas, c'est des références, ouais. Et après, j'ai fait du hip-hop dans la danse, j'en ai écouté beaucoup de rap français. Et après, peut-être ce qui nous lie, et je reviens à ce qui est l'association au départ de Angèle, Romeo Elvis, tout l'homme pâle et j'en passe, c'est peut-être qu'on est influencé par beaucoup de choses. Et qu'ensuite, ce qu'on en fait, je sais même pas si on l'a conscientisé, on l'a analysé au préalable. Et en fait, du coup, bah oui, c'est teinté de hip-hop. Alors les gens, ils disent, bon, quand même, c'est un peu scandé, c'est du rap. Oui, mais bon, quand même, ça chante, c'est quand même peut-être de la chanson française. Oui, bon, enfin, c'est quand même de la pop, là.
Ça déstabilise souvent les gens quand on sait pas donner une étiquette.
Ouais, vraiment, moi, je le vois.
Vous jouez de ça aussi. On dit souvent de comme on vous associe à eux, on dit souvent, ils sont décomplexés. C'est-à-dire que.
Et comme dans la droite.
Non, mais et dans les thèmes que vous abordez, dans ce que vous osez faire, etc., vous vous fichez de ce qu'il y a eu avant.
Peut-être, il y a de ça.
Jimmy solitaire, Jimmy s'affaire à s'affirmer pas à pas, même si tout ça est harassant parfois. Jimmy a le regard troublé, Jimmy le sait. C'est désormais sur celle-ci que s'orientent ses yeux conquis. Jimmy enchaîne les blagues, Jimmy divague. Pensant déjà à la belle bague qui ornerait le doigt de sa future femme. Jimmy tarte terrain, Jimmy sent bien comme c'est terriblement grisant de s'attacher ainsi. La nuit, Jimmy gémit quand on lui dit que. Mais arrêtez de dire que. Jimmy aime qui Jimmy veut. La nuit, Jimmy gémit quand on lui dit que. Mais arrêtez de dire que. Jimmy veut, Jimmy a aimé, mais y'a mille raisons de se taire. Si tout le monde s'y met, comment Jimmy peut faire ce qui lui plaît? Jimmy a aimé, mais y'a mille raisons de se taire. Si tout le monde s'y met, comment Jimmy peut faire ce qui lui plaît? Jimmy est aveugle d'amour, Jimmy a court dès qu'il y a accro. Peut cogner fort quand quelqu'un s'approche, trop près de celle pour qui Jimmy s'accroche. Jimmy charme, Jimmy gagne la confiance de sa belle qui se laisse couler sous les draps jusqu'au souper. En s'oubliant, se laisser vivre. Jimmy a réussi son coup. Dans la rue, à son bras, ça peut le signer. Et Jimmy cogite déjà beaucoup. Ses plans sur la comète, un jour des enfants à son cou. Jimmy voit très bien que les yeux étrangers regardent les siens. C'est sa première fois, sa première femme. C'est vrai, c'est pas la première fois qu'on les observe passer. La nuit, Jimmy.
Sauvage avec Jimmy sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Aloïs Sauvage dans notre compagnie.
Discutons.
Abordons ce premier sujet. L'ubérisation du travail a créé le Lumpen Prolétariat 2.0. C'est-à-dire que non seulement elle condamne le travailleur à la précarité économique, mais quelques années de pratique nous ont prouvé que l'ubérisation, elle mettait même la vie du travailleur en danger. Déjà, à la cadence infernale des employés d'Amazon, dans les hangars gigantesques, et certains sont condamnés à uriner dans des bouteilles, quand même, s'ils n'ont pas le temps d'aller jusqu'aux toilettes qui sont très loin. Et cette année, il y a deux livreurs Deliveroo qui ont perdu la vie parce que l'application qui les guide les a emmenés à vélo sur une rocade.
Sam, mais qu'est-ce que tu glandes ? Le client a un pétard.
Je sais, mais j'ai été obligé de prendre les clés à cause de la manif du CRS à Bastille.
C'est pas mon problème, la manif, ça.
Pour 18h, en super express.
J'y suis presque, là. J'y suis dans 2 minutes, boss.
Comment ça, t'y es presque ? Quoi, t'y es pas encore ? Arrête de traîner, Sam, hein. T'es pas payé à l'heure. Dans Pays Express, il y a Express.
Express.
T'entends ?
Express, c'est quand les deux touchent plus le goudron.
T'es où, là ? J'entends pas le moteur fumer.
Qu'est-ce que je peux, là ? Je suis sur les trottoirs.
18h, Sam.
18h.
Ou c'est gratuit.
Express. Zéro stress.
Ah bah oui, mais non, hein, c'était avant 18h. Et là, ils sont tous partis en week-end. Laissez-les-moi quand même, hein, puisqu'après 18, c'est gratuit.
Bien sûr. Tenez.
Un extrait de Coursier, c'est un film d'Hervé Renaud avec Michael Youn en tête d'affiche. Alors ce sujet nous a été soufflé par une tribune qui est publiée sur le site du magazine Ouzbek et Rika. Ouzbek avec un K, Rika avec un C, je le signale parce que c'est un chouette magazine. Deliveroo veut développer les moyennes et longues distances, c'est-à-dire que les vélos doivent même prendre le périphérique ou la rocade, c'est-à-dire qu'ils suivent l'application VTC pour faire leur livraison, et donc il y a des vélos qui se retrouvent sur le périph, et évidemment ça crée des accidents. On se disait l'ubérisation de la société, elle a débuté quand vous aviez à peu près 20 ans, Aloïs Sauvage. Donc c'est dans cette direction qu'on va, tranquillement, qu'on progresse. Ça s'accélère chaque jour. Je me disais, est-ce que vous avez quel âge, 26 à peu près,
ouais,
d'après un calcul.
Je
me rappelle avoir fait un calcul, je ne sais plus sur quelle base. Mais est-ce que vous vous sentez à l'aise dans cette société, prête à accompagner le mouvement, le subir ou résister? De quel œil vous voyez ça ?
Bah, j'ai l'impression que à trop vouloir, on va vraiment se cracher, quoi. Mm. Donc j'ai lu l'article là sur
Ouzbek et Rika.
Ouais. Ouais. Et ouais, moi j'ai pas essayé hein, le vélo sur le périph. C'est quand même très dangereux. Non,
c'est
surtout que ces personnes qui travaillent pour ces enseignes sont ne sont plus du tout salariés en fait au niveau sécurité et droit. Ouais. Donc je sais pas jusqu'à quand on va. Ou alors ils veulent peut-être faire des vélos qui avancent tout seuls en fait, voilà, qui ait plus besoin d'être humain pour le faire.
C'est alors pas, vous avez pas voilà. Tort parce qu'en fait Uber,
tu sais pas ce qu'on attend en fait.
En magazine les données, enfin les voitures Uber en magazine toutes les données qui seront un jour utilisées pour avoir des voitures sans chauffeur. Donc en fait les chauffeurs travaillent à leur licenciement en fait.
Mais je vous ai coupé carrément.
Ah non pas du tout.
Vous sortez.
Ouais, on est freestyle.
C'est du
désolé. Ça c'est
à l'origine. Ici tout le monde coupe.
Non mais. Mais à un moment donné, il faut aller.
Je peux pas vous laisser dire ça.
Chute. Non, mais une espèce de. Je sais pas, on appelle ça comment, une décroissance raisonnée, un équilibre.
Enfin, est-ce que j'allais vous
s'équilibrer un petit peu?
Ouais. Il y a dans l'article, il est inscrit le prix du confort. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se crèvent au boulot sur ce vélo, etc. pour le confort sans doute souvent superflu d'autres gens. Vous, en tant que jeune artiste, etc., vous avez intégré un peu le mode de vie décroissant. Donc, c'est des trucs que vous n'utilisez pas, j'imagine. Vous n'avez même pas besoin de résister. Vous n'utilisez pas les Deliveroo, les machins.
Absolument pas. Je ne prends jamais les Uber. Non, c'est faux. Mais en fait, moi, personnellement, je ne suis pas trop Deliveroo et tout. Mais ça m'arrive de le faire, évidemment. Mais maintenant, en fait, ça y est, j'ai une obsession, évidemment, avec tout ce que... J'ai une gourde, moi aussi, j'ai une gourde.
Ah ouais.
Et une obsession emballage, vraiment. Et du coup, ça, par contre, j'arrive plus. Du coup, tout ce qui est...
Ouais, ça c'est éliminé,
etc. Il faut éliminer totalement.
Alors, pour plus être trop triste, l'heure de passer à l'édito de Pablo Mira, auteur d'un essai intitulé « Mamour, je t'en prie, n'ouvre pas mon historique internet ». Pablo, mon petit ange trapu, aujourd'hui vous condamnez la décision du groupe Free de couper la diffusion sur son bouquet des chaînes BFM, RMC Story et RMC Découverte.
Ouais, ma louloute, chacun se souvient ce qu'il faisait le 11 septembre 2001. Eh bien, les Français se souviendront de ce qu'il faisait le jour où Free a coupé la diffusion de BFM et RMC Découverte, un véritable lundi de cristal, comme diront nos petits-enfants. Et pour ceux qui sont un peu perdus dans cette guerre entre Free et le groupe Altice, en fait, c'est C'est très très simple. Free appartient au mec blindé qui rachète plein de trucs et Altice appartient au mec blindé qui rachète tout le reste. Problème, Free refuse de payer 4 millions d'euros par an à Altice pour diffuser des chaînes qui sont gratuites sur la TNT. En gros, si je résume, le groupe de Xavier Niel refuse de se faire pigeonner, ce qui est louable, hein. Moi je trouve ça bien qu'un groupe comme Free ne s'abaisse pas à se comporter comme un client de chez Free. Mais la conséquence de cette décision, elle est terrible au fait. On prive tout simplement BFM TV de 100 de milliers de téléspectateurs et puis on prive RMC Découverte de 2-3 mecs un peu bizarres passionnés par les anacondas et les restaurations de maisons. Et quel scandale aussi, quel scandale, parce que ça veut dire quoi concrètement, Charline Maloulouth? Ça veut dire plus de Jean-Jacques Bourdin qu'on adore, et non, c'est, hein, celui qui est un peu le docteur Jekyll et Mr Hyde du journalisme, hein, sauf que chez lui le petit docteur Jekyll est mort à la naissance. Alors oui, bien sûr, les auditeurs pourront toujours le retrouver chaque matin en allumant la radio ou chaque soir en poussant la porte d'un bar PMU. Mais bon, moi je vous le dis, j'ai besoin des interviews de Jean-Jacques le matin sur RMC 1, là, quand il est là, là. Valérie Pécresse, combien il y a de chouquettes dans 100 grammes de chouquettes? Répondez, connasse. Mais non, plus de Jean-Jacques. De grande gueule non plus, et puis leur concept totalement innovant qui voit des journalistes et des gens de la société civile débattre sur plusieurs sujets d'actualité tout en imitant votre poissonnier. Même punition pour BFM TV, non, on fait quoi alors avec une chaîne sans chaîne comme BFM pour s'informer à l'heure où la défiance envers les journalistes n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui, sans des journalistes sérieux pour faire le tri dans toutes ces fake news véhiculées par des sites de guignols comme le Gorafi qui ne pensent qu'à vendre leurs produits dérivés débiles comme cette superbe boîte de jeux à 10,90€ seulement. Une honte, Charline, une honte made in France, je précise. Voilà. Et puis quand on y pense, vous en connaissez, vous, des chaînes de télé comme BFM qui laissent autant de place au débat. Et là, je pense bien sûr au duel des éditorialistes sur BFM. D'un côté, Éric Brunet, le droitard qui pense que c'était mieux avant, contre Laurent Neumann, hein, le gauchiste qui pense que c'était mieux avant. Bah oui, mais vous avez beau chercher, il n'y a que BFM pour avoir le courage de lancer ce type de format qu'on peut aussi retrouver au passage sur France Inter, Sud Radio, France Info, Europe 1, RTL, Skyrock, Chante France et Poney FM, la radio MeTube, Michetland. Mais non, à plus tout ça, à plus. Du coup, pour me tenir informé, moi, qu'est-ce que je fais, ma louloute? Eh ben, j'ai dû changer mes habitudes, zapper sur d'autres chaînes d'infos en continu. C'est notamment sur CNews que j'ai appris qu'Ariane du Club Dorothée était décédée. Et c'est sur LCI que j'ai appris qu'Arlette Chabot était encore vivante. Eh ben, c'est nul. Je suis désolé, c'est nul. Et moi, je vous le dis, depuis que Free a coupé toutes ses chaînes et qu'Orange menace de faire pareil, bah je suis pas bien. Hein. Je suis en manque de débats qui partent en live, de gens qui s'écoutent pas. Du coup, bah pour me calmer, le médecin, il m'a prescrit quoi? Il m'a prescrit une séquence de Pascal Pro à prendre 2 fois par jour. D'ailleurs, c'est l'heure de mon traitement. Charline, excusez-moi. Aïe.
Arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. Ça mieux. Suffit.
Ça va mieux. Pour conclure, à cause de ce tyran de Xavier Niel, cela fait déjà une semaine que je ne peux plus accéder à mes chaînes préférées, et notamment à BFM. Et pour la peine, je vous l'annonce aujourd'hui sur cette antenne, exclusivité France Inter. Je vais me désabonner dès maintenant de chez Free. Donc rendez-vous dans 7 mois quand j'aurai enfin quelqu'un de la hotline au bout du fil. Allez, salut.
Merci Pablo Mira. À Louis Sauvage avec nous, quand vous avez tenu un stylo en main pour la dernière fois, pour écrire plus de 2 lignes, hein, parce que l'écriture manuscrite finit par nous faire mal aux mains, puisque nous écrivons désormais quasi exclusivement sur un clavier, avec la voix aussi, ou avec un seul doigt sur notre smartphone. Alors, qu'est-ce qu'on perd si on délaisse l'écriture cursive en attaché? La saveur de la dictée, par exemple?
Johnny a dit à Adeline, Johnny a dit à Adeline, sinon ça fait Adelin, à que c'est chouette.
C'était encore Adeline, donc ça date. C'est les inconnus, bien sûr. Alors, dans le supplément du journal Le Monde, intitulé L'Époque, on nous explique que c'est le dernier bastion où on écrit à la main, c'est l'école, au collège et au lycée. Vous, Aloïse Sauvage, vous racontez que vous écrivez tout le temps, que vous accumulez, même, c'est votre terme. L'écriture, c'est une nourriture, il y a, je sais pas s'il y a un côté compulsif, mais vous écrivez énormément. Alors, est-ce que vous écrivez par tous les moyens qui vous tombent sous la main, ou les idées sont plus fluides à l'écrit? Est-ce que c'est le petit bloc-notes du smartphone? Est-ce que c'est le clavier? Comment ça fonctionne chez vous?
Ouais, c'est quand même majoritairement le petit bloc note du smartphone. Parce que
ah oui.
Ce petit smartphone que j'ai sur la table, il est presque greffé à, malheureusement à ma main. Mm-hmm. Et comme je l'ai partout, c'est là où j'écris le plus souvent. Après, j'ai quand même des carnets. Et plus quand je m'éloigne ou quand je suis en vacances. Ou... Mais ouais, j'ai un peu honte, mais j'utilise beaucoup le smartphone.
Non, mais il n'y a pas de honte à avoir, mais quand, si, quand vous...
Moi, je suis mal à l'aise.
Quand est-ce que... c'est clivant. Non, hein, Louis Sauvage est extrêmement clivante.
Pourquoi d'ailleurs vous dites, pourquoi, d'ailleurs, c'est intéressant, pourquoi vous dites vous avez un peu honte, qui serait
parce
de quel ordre?
Parce que j'aimerais, je sais... Mes parents sont dans l'éducation nationale. Non, ah. je te plaisante. Non, mais je sais pas. J'aimerais défendre l'écriture, ouais. Qu'elle soit cursive ou non, mais l'écriture, comme on dit à la
manuscrite.
Ouais.
Et quand est-ce que vous saisissez un stylo?
Bah, du coup, en fait, principalement quand j'ai des choses de l'ordre de la logistique, quoi. Donc, ne pas oublier de faire ça.
Écrire sur une enveloppe, l'adresse.
Écrire sur une enveloppe. Ou alors vraiment quand j'écris à quelqu'un une lettre, quelque chose que je veux. Que ça reste, j'emploie encore la lettre vraiment magnifique.
Lettre de menace, vous menacez les gens.
Dernière question à ce sujet.
Ouais, moi j'avais une grande tristesse justement pour votre génération, vous n'avez pas de petite caisse chez vous où vous gardez toutes les lettres d'amour qu'on vous a écrites
que les gens de ma génération. Mais après 14 ans j'en ai plus du coup, oui voilà. Ça s'est arrêté quoi. Mais
Et vous le situez à peu près en quelle année? On cherchait avec Charline, on se disait que c'était à peu près 2000.
Moi,
non, je vous appelais Adeline.
Adeline.
De quoi? Du passage un peu au...
Oui, le moment où vous avez arrêté de recevoir des lettres manuscrites.
Ouais, moi je suis un peu déçue, parce que moi j'adorais recevoir les cartes postales, et j'en reçois plus finalement.
On va donner votre
maintenant,
adresse
maintenant, je pense que vous allez recevoir.
Non, pardon, j'ai pas répondu à la question. Je ne sais pas, moi j'ai eu un portable assez tard, à 17 ans. Maintenant, ils les ont hyper, hyper jeunes. Ouais. Mais non, du coup j'ai pas de réponse en fait à votre question. Voilà,
mais
je
c'est
passe.
Pas grave, vous allez peut-être en trouver à des questions plus spéciales.
Oui,
Juliette.
On va vous proposer un questionnaire de Jupy-Proust, c'est-à-dire c'est comme Proust, mais c'est à la sauce de nous. Et l'intérêt, c'est de répondre vite, spontanément.
Oh là là.
Et une question à Raphaël. Non, détendez-vous, il y a zéro piège.
À la fin, vous êtes noté.
Oui, bah j'imagine.
On y va?
Ok, voilà. Allez, c'est parti. Sur une échelle de 1 à 10 de la gauche, à combien vous situez-vous?
Oh, c'est horrible.
Pensez aux ventes d'albums. Hein. On est beaucoup écouté par des gens de gauche.
8,33.
Ah, ok, c'est très bien. Sur une échelle de 1 à 10 de la droite, à combien vous situez-vous?
Des gens de droite nous écoutent aussi.
5.
Ah, quand même.
Bien, ouais, bien, ouais, bien. J'ai... Ouais.
Il y a un petit côté de droite.
J'ai pas envie de... Non, non.
Non, c'est juste question de marketing. Très bien. Quelle est votre insulte préférée? Attention, elle ne doit être ni sexiste, ni homophobe, ni raciste. Je peux vous prêter sa capu.
Oh là là.
Cornichon.
Chewbacca, vous avez le droit de dire. C'est pas très gentil ce qu'il y a à côté.
Peut-être que vous faites pas beaucoup d'insultes.
Non, j'en je suis assez polie, mais non, bah mes insultes elles rentrent pas dans les critères.
Ah,
moi aussi je suis un peu. Ouais, ça va pas du tout, je vais me ressaisir.
Alors, il faut. Question suivante, parce qu'après il y a des dates de concert.
J'ai lu que vous ne buviez pas d'alcool, là il va falloir faire preuve d'imagination, ça m'amuse. D'accord. Quel est votre principal trait de caractère quand vous êtes ivre?
Je danse sur la table assez dénudée.
Yeah!
Pour ça que vous avez arrêté.
Et j'ai arrêté, j'essaye de faire ça sur scène tout en restant habillée maintenant.
Alors attention, question de chanteuse, si vous étiez un homme, seriez-vous capitaine?
J'essaye d'être capitaine en tant que femme déjà.
Yeah!
Belle réponse! Aloïs Sauvage. Voici celui qui monte sur le terrain quand c'est la mi-temps. C'est Guillaume Meurice. De quoi il nous parle, Juliette, aujourd'hui?
Bah, vous savez, de cette petite fille qui fait si peur aux grandes personnes, Greta Thunberg.
Ah oui, je vois.
Celle-là.
Et ce week-end, figurez-vous que c'était les journées du patrimoine. L'occasion de découvrir des vieux monuments de l'histoire de France. Par exemple, le Hippolyte était ouvert tout le week-end. Hein, vous pouviez le visiter. Ça va, Hippo? C'était bien?
Très bien, c'était très sympa.
Super,
beaucoup
un peu
de
fatigué.
Visites, non, mais fatigué.
Très bien, c'est impeccable. Mais c'est vrai que c'est important, le patrimoine. Et notre patrimoine commun, c'est la planète Terre. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Brune Poirot. Et Brune, c'est une écolo de taré. Quand elle défend le CETA, par exemple, elle imprime les éléments de langage en recto verso. Hein, ça vous la coupe, ça, hein? Ah, c'est du capitalisme vert, on appelle ça. C'est comme le cannibalisme bio, c'est pareil. On va à petits pas, comme vous disiez, Jamel Macron. Ben Salah, pardon. C'est comme pour les jeunes qui ont manifesté ce week-end pour le climat en France. Les CRS ont distribué gratuitement des châtaignes et des patates, mais issues de permaculture. C'est important. Tout ça à cause de qui ? Une gamine de 16 ans, Greta Thunberg, qui en veut aux générations passées de lui laisser seulement la promesse d'un avenir pourri. Et du coup, les générations passées, elles sont pas hyper dingues de Greta. Je suis allé les voir ce matin.
Elle devrait être en classe.
Ah, vous trouvez, ouais.
Ouais, je sais qu'il y a grève demain et je trouve que c'est lamentable. Et je me dis, pauvre France, c'est dans un triste état.
Triste état, cette France. Alors attention, la grève demain, c'est contre les réformes de Macron. Ça n'a rien à voir avec Greta. Avec Guetta, par contre, avec Bernard Guetta, oui, qui soutient toujours Macron. On l'embrasse, d'ailleurs, Bernard.
Bisous.
Oui, il nous écoute depuis son EHPAD. Un cœur avec la déontologie journalistique. Donc, le sujet du jour, restez concentrés, c'est bien Greta Thunberg.
Je me demande par qui elle est manipulée.
Vous pensez qu'elle l'est ?
Je pense qu'elle l'est. Son physique, le fait qu'elle soit jeune, bien sûr qu'elle est manipulée. Disons que par derrière, il y a quelqu'un qui tire les ficelles, quoi. Mais je dis pas ça d'un côté péjoratif.
Ah ben non, non. Elle a un physique et un âge de manipulée, mais de manière pas péjorative. D'ailleurs, quand on dit à quelqu'un t'es manipulé, c'est souvent sympa. C'est un truc qui fait plaisir. Il y a ça et les coups de pied dans les tibias. C'est vraiment les deux choses qui font plaisir dans la vie. Allez, poursuivons sur la même thématique.
Une gamine de 12 ans qui est évidemment manipulée par sa famille ou par des gugus. Hein. Je trouve que c'est assez lamentable.
Elle a pas 12 ans. Hein.
Comment ?
Elle a 16 ans.
Ah oui, 16 ans. Bon, c'est pareil.
Hein. Alors, pour Roman Polanski, oui, évidemment, mais pas pour le juge d'application des peines. Il y a une petite différence. Alors attention, parce que pour ce monsieur aussi, il y a une différence.
Hein. C'est presque plus grave si elle a 16 ans.
Ah, pourquoi ?
Parce qu'elle pourrait avoir son opinion quant à ses capacités de mobiliser. Et je crois même qu'elle est allée à l'ONU, là.
Oui, exactement.
Oui, non, mais attendez, on rêve.
Mais alors, pourquoi elle pourrait pas avoir une opinion propre ? Mais
est-ce que c'est à eux de faire ça ? Est-ce que c'est à un jeune de faire ça, il va se prendre pour le Christ bientôt.
Alors, il y a quand même aussi des différences entre Jésus et Greta Thunberg, hein. Même si j'aime bien l'idée que Jésus ait pu avoir des couettes, je trouve que ça lui rendait, ça serait sympa. Et c'est vrai aussi qu'il y en a pas mal qui veulent la crucifier, hein, Greta. D'ailleurs, parler de Greta Thunberg à quelqu'un, c'est quand même un bon moyen pour repérer si la conversation va bien se passer. Hein, c'est quelque chose que je vous conseille de faire chez vous à dîner de famille. Et Greta Thunberg, normalement, voilà, ça se passe bien. Les paroles sont souvent mesurées, posées, comme ce monsieur.
Ouais, celle-là, c'est une pauvre malheureuse qui ferait mieux d'aller se soigner.
Mais vous pensez vraiment qu'elle est...
Je connais qu'une seule Greta, c'est Greta Garbo.
Ah oui, alors c'est un autre style. Oui, vraiment, on est sur vraiment quelque chose de plus vivant, déjà, parce que c'est vrai que Greta Garbo, bon, on l'aimait bien, mais en matière d'écologie, peut-être elle a fait un bon compost. À la limite, on pourrait dire ça, mais au moins on lui reconnaît ça. Mais le mérite de ce monsieur est quand même de faire avancer le débat, hein, le dossier manipulation.
Elle est entièrement manipulée par les Verts, qui sont eux-mêmes manipulés.
Par qui ?
Demandez-leur.
Ah, intéressant, on avance. Je vais aller demander aux Verts directement par qui ils sont manipulés. Alors, a priori, pas par le lobby du charisme, hein, puisque c'est toujours Yannick Jadot, leur chef de file. Donc, on verra. Ça fera partie peut-être d'une autre enquête. Mais aujourd'hui, ça ne nous empêche pas d'apprendre des choses.
En 1717, la canicule a fait sur la planète 700 000 morts. Voilà.
Et alors, quel est
tout
le rapport
et tout ça sur Internet. Le rapport, c'est que la Greta nous emmerde et qu'il n'y a aucune urgence. D'ailleurs, il fait 15 degrés aujourd'hui.
Ah, voilà. Et ça, on appelle ça la pascalproisation des esprits. C'est une méthode assimile pour devenir climatologue en freelance. Hein, c'est un quart d'heure de formation à peu près. Ça se passe au PMU, le Café des Sports. Il y a un cours qui s'appelle l'impact de la fonte des glaces sur Mont-Ricard. Et vous ressortez qu'un diplôme. Vous pouvez bosser sur CNews. Hein. C'est vraiment quelque chose d'ultra efficace. Alors, ce monsieur, a priori, il a fini major de sa promo. Ça tombait bien. D'ailleurs, on le laisse conclure.
Il y a un début de réchauffement climatique qui peut durer des siècles et il n'y a en tout cas aucune urgence.
Et donc vous ne croyez pas au consensus l'urgence scientifique
climatique, l'urgence climatique est un leurre. Les gens du GIEC sont des menteurs et des crapules.
Et on les salue, bien évidemment. Et on salue aussi tous les jeunes qui se mobilisent. Continuez à faire passer celles et ceux des vieilles générations qui vous méprisent pour ce qu'elles sont, les seuls responsables de la situation, ou plutôt les seuls irresponsables de la situation.
pour nous annoncer, j'imagine, pour nous annoncer la venue de l'économiste Thomas Piketty qui nous accompagne pour la deuxième partie de cette émission.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanhoenacker.
Ah, voilà des manières.
Juliette Arnaud.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Thomas Piketty, bienvenue. Nous sommes très très heureux de passer cette heure entre votre compagnie. Vous publiez un ouvrage intitulé « Capital et idéologie » paru au Seuil. On a déjà eu l'occasion de vous entendre sur cette antenne, notamment dans la matinale. Il est difficile d'avoir échappé à votre ouvrage qui a une très vaste couverture presse et médiatique. Vous expliquez, je vais donc résumer 1250 pages en deux phrases, sous votre autorité, les inégalités ne sont pas naturelles, les inégalités existent car elles sont organisées, on peut dire, et légitimées. Et ce sont les idéologies qui se chargent de les justifier, de les légitimer. Est-ce que pour l'instant...
Voilà. Ouais. Mm-hmm.
Est-ce que lorsque un chef de l'État dit « on a besoin de premiers de cordée pour tirer tous ceux qui sont derrière » et qu'on parle de ruissellement, c'est-à-dire que l'argent des plus riches va ruisseler, va pleuvoir sur ceux qui sont en bas, est-ce que c'est une... consciemment ou inconsciemment, une manière de justifier les inégalités, par exemple.
Voilà, c'est un exemple typique d'une idéologie qui
ça veut pas dire, le fait que ce soit une idéologie ne veut pas dire que c'est tout est faux, tout n'est pas vrai non plus. Il y a toujours un semblant de plausibilité dans toutes les idéologies. Bon, celle-là, elle me semble quand même particulièrement foireuse dans la situation où on est actuellement. Et je crois que voilà, les gens, tous les gens qui se sont pas reconnus dans cette description des premiers de cordée, tous ceux qui n'ont pas eu l'impression d'être un premier de cordée, n'ont pas tellement aimé cette façon pendant deux ans d'expliquer que voilà, on allait tout faire pour eux. Et ça a conduit en partie à ce qu'on a vu l'année dernière avec la crise des Gilets jaunes. Mais après, chacun a ses mots. Bon, Trump, lui, il parle beaucoup, c'est les job creators. C'est-à-dire, il dit les milliardaires, c'est les créateurs d'emplois, c'est ceux qui vous apportent des bienfaits, qui vous tirent vers le haut. C'est un peu comme les premiers de cordée. Et donc, voilà, prosternez-vous, quel que soit le nombre de zéros, ce sera jamais assez compte tenu de tous les bienfaits qu'ils vous apportent. Il y a quelque chose d'excessif, disons. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans ces idéologies, dans l'histoire, moi, ce que je montre, c'est qu'elles essayent... Il faut toujours qu'elles aient un minimum de plausibilité pour se maintenir un petit peu. Mais voilà, ceux qui ont un avantage à un moment donné ont toujours tendance à en faire un peu trop et à tirer un peu loin. Et en l'occurrence, là, je crois que
quand on scrute
notre
de
jeune
près,
président, il a été un peu loin dans son truc.
Vous Alex n'auriez peut-être pas choisi la métaphore du premier de cordée, mais le ruissellement, il est très concret dans ce que vous proposez. C'est-à-dire qu'il y a des gens plus riches que d'autres et vous proposez le relèvement des taux d'impôt sur les tranches supérieures, c'est une forme de ruissellement. L'héritage pour tous, c'est-à-dire que vous proposez de redistribuer après. C'est ce ruissellement-là qui ne fonctionne pas aujourd'hui, mais dont vous proposez une autre
réflexion. Il faut le faire fonctionner. Réflexion. Donc oui, moi je dis l'héritage pour tous, c'est 120 000 euros pour tous à 25 ans. Et alors j'ai des
En taxant les droits de succession.
Alors effectivement, jusqu'à bon, quelqu'un qui a 1 milliard d'euros de patrimoine, il va redescendre à 100 millions dans mon système. Mais bon, il restera quand même 100 millions. Et alors, j'ai des libéraux qui disent, ah, c'est liberticide, votre truc, celui qui a 1 milliard descend à 100 millions, et ils se contrefoutent complètement que, par contre, les enfants de pauvres, la moitié de la population qui actuellement n'hérite de rien du tout, va avoir 120 000 euros. Et même, ça les fait flipper. Donc, ils disent, moi, j'ai eu des gens, la semaine dernière, le journal L'Opinion, qui se dit très libéral, qui disait, mais quand même, là, 120 000 euros, est-ce qu'il faudrait pas un peu cadrer le truc? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et par contre, les gens qui reçoivent des millions d'euros, ça, ouais, c'est très bien. Donc, des gens qui s'appellent libéraux, en fait, c'est des libéraux très élitistes et très, très autoritaires qui veulent, voilà, dès que la liberté concerne les enfants de pauvres, là, ça les inquiète.
120 000 qui leur tombent dessus comme ça, on ne sait pas s'ils vont pouvoir gérer.
Toutes ces solutions, est-ce qu'elles sont plausibles avec les frontières? C'est-à-dire que si on décide que la France, voilà, on vote pour quelqu'un qui pense comme vous, ou le programme économique est celui-là, il y a plein de gens qui vont déménager.
Mais d'abord, ils sont pas obligés de partir avec leur immeuble sous le bras et leur... Non, mais si vous voulez, c'est des choses qu'on construit. On part du principe qu'on peut s'enrichir sur le système éducatif d'un pays, les infrastructures d'un pays, et puis qu'après on a un droit sacré à se barrer avec le truc sous le bras sans payer le moindre impôt.
Oui, mais l'homo economicus va instinctivement le faire.
Dis donc, ça va aller à Salamé, on va se calmer.
Non, mais le problème, c'est est-ce qu'on l'autorise?
Mais non, est-ce qu'on l'autorise?
Oui, mais si vous voulez, tout ça, c'est une construction. C'est-à-dire, en l'occurrence, dans les années 80-90, c'est vrai qu'on a mis en place un système de libre circulation des capitaux sans aucune régulation commune, sans impôt commun. Et après, on s'étonne, on dit, ah ben mince, là, on peut plus rien faire, on sait plus qui possède quoi, on est perdu. Mais sauf que ce système, il n'est pas tombé du ciel. C'est-à-dire, ce sont des accords internationaux qu'on a signés. C'est un truc super sophistiqué parce que pour réussir à bouger votre droit de propriété d'un pays à l'autre sans que personne puisse savoir qui possède quoi, c'est le truc qui a été construit pour que ce soit comme ça. Et donc, il faut le déconstruire et le reconstruire autrement. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait semblant de faire maintenant, parce qu'on se rend compte quand même, aussi bien aux États-Unis en Europe, qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent abandonnés par la mondialisation telle qu'elle fonctionne. Donc ça finit par faire un peu peur. Donc on fait semblant, parfois au niveau de l'OCDE, d'essayer de faire des accords d'échange automatique d'informations pour savoir qui possède quoi où. Mais en fait, il faudrait le remettre au cœur des traités qui nous unissent, par exemple en Europe, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Mmh. Mais tout ça peut être changé.
Thomas Piketty, qui publie Capital et idéologie, paru au Seuil, il est avec nous. On va aborder les autres volets tout à l'heure avec vous, Thomas Piketty. En attendant, Thomas VDB est avec nous.
On est parti.
On va cramer. C'était pas 4, mais plutôt 7 degrés. Les scientifiques, ils s'étaient bien trompés. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Préparez-vous à beaucoup transpirer.
Alors ça y est, c'est officiel. Des experts français du GIEC l'ont dit par rapport à la hausse de température attendue pour 2100. Donc en fait, c'est plus 7. Alors c'est plus 7 degrés, ils ont recalculé, ils ont fait 2, 1, 3, 4, 7, voilà, ça fait 7 degrés de plus. Donc Jair Bolsonaro plus Donald Trump plus Emmanuel Macron moins Greta Thunberg, ça fait 7, voilà, c'est ça. Total plus Amazon plus LVMH moins Marion Cotillard, 7, on tombe toujours sur le nombre 7. Alors moi ça tombe bien parce que 7, c'est mon chiffre porte-bonheur, c'est vrai, il y avait les 7 merveilles du monde, il y avait les 7 péchés capitaux, maintenant il y a les 7 degrés de l'apocalypse. Et donc c'est le porte-parole du GIEC qui l'a dit, le porte-parole du GIEC, pour moi, c'est un petit peu le nouveau François Molins. François Molins, je ne sais pas si vous vous rappelez, oui. C'est le procureur de la République. Oui. C'est lui qui parle aux caméras de télé après chaque attentat pour dire combien il y a eu de morts et de blessés. Et ben, le porte-parole du GIEC, c'est pareil, il est là que pour les mauvaises nouvelles. Vraiment, les gars, on n'a jamais trop envie d'entendre ce qu'il a à nous dire. C'est des gars, François Molins ou le gars du GIEC, dès qu'il l'ouvre, t'as envie de te boucher les oreilles. T'as pas envie vraiment de les écouter. Bon, maintenant, je me dis peut-être que les gars du GIEC, ils ont exagéré les chiffres exprès pour nous inquiéter vraiment, parce que c'est vrai que quand ils ont prévenu qu'on allait passer à 4 degrés de plus avec le gouvernement, ils ont interdit les touillettes en plastique, donc je dirais bon, peut-être qu'ils sont allés faire vraiment stresser, on va dire plus 7 je pense, enfin, peut-être qu'ils passent la seconde là, je pense qu'ils ont fait peut-être bon. Alors c'est vrai qu'en même temps, moi je suis rassuré parce que j'ai vu une interview d'Edouard Philippe où il disait que c'est important, j'ai vu ça cette semaine, de faire de l'écologie souriante. Alors on se dit, il prend vraiment le problème à bras-le-corps. Alors on se dit, il va vraiment falloir beaucoup sourire pour lutter contre la planète. Mais ça, voilà, en tout cas, on est entre de bonnes mains. Il a raison, Edouard Philippe, c'est important d'être écolo, mais dans la bonne humeur. Hein, ça c'est vrai, quand vous faites pipi sous la douche, bah souriez. Hein, c'est tout. Quand vous mettez des déchets au recyclage, moi ce que je conseille, c'est de chanter. Petite bouteille de lait, je te mets dans la poubelle verte. Petit carton tout mignon dans la poubelle jaune. Voilà, vous allez voir, vraiment, la planète s'emportera beaucoup mieux. Alors voilà, la bonne humeur c'est important parce que c'est vrai que c'est tout ce qui nous reste. Hein. On commence à être bien rodé, j'ai remarqué, au niveau des mauvaises nouvelles. Parce que j'ai remarqué ça, des mauvaises nouvelles, il y en a de plus en plus et elles sont toujours de pire en pire tout le temps. Que les bonnes nouvelles, il n'y en a pas plus et quand il y en a, elles sont jamais de mieux en mieux. Elles sont toujours du même niveau de bonnes nouvelles. Moi par exemple, ce week-end, je suis allé chez mes parents et ma mère elle m'a dit, tiens, tu sais ton cousin Nicolas, bah il s'est marié. Voilà, bon bah c'est bien, je pense vraiment. Bah pareil cette semaine. Bon. Cette semaine j'ai vu la vidéo d'un média qui s'appelle Loopsider sur internet. Alors Loopsider c'est un peu comme les petites vidéos du média brut. C'est des vidéos qui durent 2 minutes et l'avantage de cette petite vidéo, c'est vrai que tu la regardes et après t'es absolument incollable sur le sujet, tu connais vraiment tout, tu peux vraiment te forger une opinion claire et précise, tu peux briller en soirée, alors tu peux briller pendant 2 minutes, mais bon, c'est ça quand même, c'est bien. Et donc Loopsider, il titrait ça, il disait, c'est une excellente nouvelle, le macareux aurait pu disparaître totalement des États-Unis, il vient de battre un record de nidification. Hein, bon. Alors le macareux, c'est une espèce d'oiseau mignon qui ressemble un peu à un pingouin. Alors nous, c'est une espèce qui est en train de s'éteindre et finalement, c'est en train de repartir. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle. Hein, j'ai envie de dire, les excellentes nouvelles, c'est plus ce que c'était. Hein, parce que j'ai envie de dire, c'est une excellente nouvelle, surtout si on est un macareux. Hein, parce que c'est vrai, moi, par exemple, je suis pas un macareux, donc c'est vrai que je suis content pour eux. C'est vrai que je boude pas mon plaisir que ça reparte le macareux. Je peux dire quand même, c'est bien. Mais est-ce que c'est une assez bonne nouvelle pour compenser l'angoisse des 7 degrés supplémentaires qui arrivent? Non. Hein, c'est comme si j'avais une maladie grave et vous me disiez bah fais pas cette tête, il y a mousse au chocolat ce soir en dessert. Oh, c'est bien, mais bon, c'est bon. Alors heureusement qu'il y a quand même des vraies bonnes nouvelles. Cette semaine, j'ai lu que EDF a annoncé que 6 réacteurs nucléaires en activité présentent des défauts de fabrication. Et c'est vrai que c'est un peu chiant les défauts de fabrication. C'est vrai que comme quand on achète un jean et que l'ourlet est mal fait, eh ben c'est pareil, là les centrales nucléaires, ils ont des ourlets un peu mal faits. Mais bonne nouvelle, l'article dit que EDF les juge aptes à fonctionner quand même. Ouais ! Ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça c'est vraiment, moi quand j'ai appris la nouvelle, j'étais trop content quoi. J'étais là, yes, aptes à fonctionner. Woo! C'est vraiment cool. Bah donc l'actualité, vraiment, ça dépend de comment on l'appréhende, de comment on la regarde. C'est vrai que les 7 degrés, on voit ça comme un problème, mais si ça se trouve, c'est une solution. C'est vrai, en ce moment, on parle beaucoup, par exemple, de la réforme des retraites. Et bah, je termine avec cette excellente nouvelle que j'ai à vous annoncer. Le problème des 7 degrés va définitivement et entièrement régler le problème de la réforme des retraites.
En effet. Merci Thomas VDB. Et plaisir de vous voir en image aussi, avec vos petits moulinets et votre toujours enthousiasme, bien sûr, sur notre page Facebook ou sur France Inter. .fr. Devisons avec Thomas Piketty, toujours sur la question des inégalités, du socialisme participatif que vous proposez et de la sacralisation de la propriété qui fait partie d'un des thèmes de votre livre Capital et idéologie. La sacralisation de la propriété et du patrimoine, source d'inégalités. Et pourtant, on baigne dans le partage. On partage notre maison avec Airbnb, on partage les vélos, les bureaux en coworking, on partage du moment que ça nous rapporte du blé. Donc même la bagnole se partage. La bagnole qui semblait pourtant être le parent parangon de la propriété, un truc rien qu'à soi, dimension presque religieuse.
Alors espèce de connard, pas faire attention non ? Mais où tu te crois, connard ? Tu sais conduire ou quoi, pauvre con ?
Pardon monsieur, je suis désolé.
Connard !
J'étais en train de discuter.
Mais tu te crois où, pauvre con ?
J'ai un tout petit peu touché votre rétroviseur.
Connard ! C'est terrible ce qui vous est arrivé !
De quoi ?
Je dis, c'est terrible ce qui vous est arrivé !
Espèce de connard. Sur la Terre, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim. Il y a ceux qui vivent dans les caves à cause des bombes. Il y a ceux qui pourrissent du cancer et du sida dans les hôpitaux. Il y a celles qui se font violer par 25 mecs en même temps pour bien leur faire comprendre c'est qui le patron. Et il y a toi. Et toi, il t'est arrivé une chose terrible. C'est qu'on a touché à ton rétroviseur, mon gros. C'est terrible. C'est terrible.
Vincent Lindon, Francis Perrin, dans La Belle Verte de Colline Serrault. La propriété privée doit cesser d'être sacralisée, dites-vous. On voulait vous emmener sur ce terrain de la propriété qui semble partagée, mais partagée dans un partage de marchandisation, que ce soit Airbnb, la voiture partagée, les espaces de coworking, etc. En fait, est-ce que ce capitalisme-là, du partage, il a permis déjà, à sa manière à lui, de désacraliser la propriété privée, parce qu'on la monnaie, on fait rentrer des gens dedans.
Oui, sauf que en l'occurrence là, dans les boîtes que vous citez, on partage pas tellement le pouvoir. Hein. C'est-à-dire qu'à la tête des boîtes en question, il y a des types qui contrôlent tout. Donc en fait, on soi-disant, on est dans une idéologie de la circulation, du partage, mais il y a des choses qu'on continue de concentrer énormément, qui est le pouvoir actionnarial avec le fondateur qui a tous les droits. Voilà, parce que voilà, soi-disant, il a eu une super idée à 30 ans et jusqu'à 70 ans, 90 ans, il faut que toute la planète se prosterne et que ce soit lui qui décide tout seul, y compris dans des structures énormes, ce qui n'a pas de sens, parce que je pense qu'on a besoin d'une circulation aussi du pouvoir. Et moi, c'est ça, socialisme participatif, c'est l'idée que c'est très bien la propriété privée tant que ça reste d'une ampleur raisonnable et qu'on n'a pas une concentration, une hyper-concentration au sein d'un petit nombre de personnes. Donc, posséder des dizaines de milliards d'euros pour une seule personne, avoir des droits de vote qui donnent le contrôle absolu sur d'immenses entreprises avec une seule personne qui aurait seule des idées pour gouverner tout ça, ça tient pas la route. Quoi.
Donc c'est l'idée de participation dans les entreprises, qu'on augmente le nombre d'employés qui soient actionnaires. En fait, bah, je pensais que c'était une idée de droite, moi, la participation dans l'entreprise.
Mais ce qui serait une idée de droite...
Vous allez me calmer un peu.
Non, mais ce qui serait une idée de droite, c'est de faire une condition absolue. C'est-à-dire, je pense qu'il faut commencer d'avoir du pouvoir pour les salariés simplement en tant que salariés. C'est-à-dire que les représentants des salariés, en tant que tels, doivent avoir... vous avez en Allemagne, en Suède, ils ont entre un tiers et la moitié des droits de vote. C'est pas le cas aux États-Unis, au Royaume-Uni. Alors en France, Hollande, il a été très audacieux, comme d'habitude. Il a créé un siège pour les salariés en 2013. Alors c'est mieux que zéro, vous direz. Mais par rapport en Allemagne et en Suède, où c'est la moitié depuis les années 50, et on pourrait aller plus loin que ça. C'est-à-dire, moi, ce que je propose, c'est de partir de ces expériences et de les pousser plus loin. Donc on pourrait, en plus d'avoir la moitié des droits de vote pour les représentants des salariés, on pourrait plafonner les droits de vote des actionnaires individuels. C'est-à-dire, dans une grande entreprise, un individu seul n'a pas besoin d'avoir plus de 10% ou de 20% des droits de vote. Bon, moi je dis pas que je connais la formule exacte, mais je pense qu'on peut s'appuyer sur des choses qui ont été faites et qui ont marché dans un certain nombre de pays pour aller dans cette direction et éviter cette espèce d'hyper-concentration du pouvoir qui est complètement contradictoire avec l'idéologie justement du partage, du numérique, mais qui en fait en pratique est utilisée par un petit nombre d'hyper-milliardaires ou de grands patrons pour verrouiller le pouvoir.
Vous proposez d'être raisonnable.
Je propose d'être raisonnable.
Bah oui, comme les écolos qui nous disent pour le confort, bah c'est pareil, soyons raisonnables. Thomas Piketty, Capital et idéologie, je rappelle que c'est paru au Seuil, toujours livre, nous parlons. Politiquement, dans le monde, en France ou dans le monde, serait susceptible d'appliquer ce que vous proposez?
Alors d'abord, moi, j'invente absolument rien. C'est-à-dire toutes les choses dont je parle, c'est des choses qui se sont déroulées en partie au cours du XXe siècle et qui aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un mouvement vers une forme de socialisme démocratique et de dépassement du capitalisme qui a eu lieu en partie depuis la fin du XIXe siècle, qui s'est interrompu dans les années 80-90, parce que c'est vrai que le mouvement réaganien, la chute de l'Union soviétique pendant un moment a fait qu'il y a eu une espèce de retour d'une foi sans limite vers le marché, mais qui aujourd'hui reprend son cours. C'est-à-dire, si vous voyez ce qui se passe.
Mais donc qui plutôt vers les États-Unis?
Bah, par exemple, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Vous voyez, c'est quand même intéressant. Aux États-Unis, vous avez des candidats comme Elizabeth Warren ou Bernie Sanders qui proposent, bah, par exemple, de mettre en place pour la première fois aux États-Unis, ils ont déposé des projets de loi, des droits de vote pour les salariés dans les entreprises qui jusqu'ici n'avaient jamais atteint l'Amérique ou le Royaume-Uni. Ils le proposent. Ils proposent de mettre en place un impôt sur la fortune. Le SPD en Allemagne vient de remettre la création d'un impôt sur la fortune dans son programme et veut en faire une condition de son maintien dans la coalition. Les travaillistes au Royaume-Uni, c'est pareil. Et donc, la France, il y a quand même, là, avec Macron, un art du contre-temps quand même assez génial. Quoi.
Donc, c'est plutôt dans ces zones-là que...
Bah, y a beaucoup de mouvements qui se passent, et dans d'autres pays aussi.
Il y a un tweet de Jean-Vincent Placé qui dit « Moi, je suis disponible pour défendre des idées que je ne comprends pas, je l'ai déjà fait. » Donc voilà, hein, appelez-le.
Thomas Piketty, derrière vous est arrivé un individu.
Frédéric Fromet, bonjour. Bonjour. De quoi allez-vous nous chanter?
Eh bien, j'ai reçu un texte d'Isabelle Balkany qui s'est mise au rap avec un morceau qu'elle a intitulé « Génération Zonzon ». Alors ouais, je me la raconte, mon jeu, je suis pas la honte. Non, non, c'est pas la loi qui m'a dicté mes codes. Non, non. Génération Zonzon. Alors ouais, je vous emmerde, même avec trois ans ferme. Non, non, c'est pas la loi qui m'a dicté mes codes. On a dit que j'étais fragile, voilà, du hardcore. Je reste à la tête de la ville, les Balkany bougent encore. Y'a comme un goût de tiens bon quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de pognon quand je parle de ma vie. Y'a comme un goût de pourri chez les pauvres et chez les juges. Y'a comme un goût de jalousie chez ceux qui disent qu'on cru. Je me demande pas ce qui nous pousse à jamais rien lâcher. C'est pas la ville à pamplemousse, on l'a jamais déclaré. Pas le Riyad à Marrakech, pensez-vous c'est la dèche. Pas le moulin à Giverny, on n'a pas un radis. Nous, on n'a pas de métier, on n'a que le Valois Perret. Ceux qui veulent le trône, rendez-vous dans l'octogone. Y'a comme un goût presque obscène, et alors c'est les Hauts-de-Seine. Y'a comme un goût d'Al Capone, et alors ça vous étonne. Y'a comme un goût grosse arnaque, comme un goût de Cahuzac. Y'a comme un goût de coup de pute, on connaît bien Paul Bismuth. Alors ouais, le pognon, ouais, les malversations. Non, non, c'est pas la loi qui n'a de petit technocon. Non, non. J'en bafouille, génération Zonzon. Me demande pas ce qu'il épouse. À nous casser les couilles, à se mettre aux trousses, des petites gens qui se débrouillent. Alors ouais, on magouille, ouais, ouais, on tripatouille. Non, non, c'est pas la loi qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération Zonzon. Y'a comme un goût de cachot aujourd'hui chez mon patoche. Y'a comme un goût de mal au dos, mais il a pas les pétoches. Y'a comme un goût de cache-cache dans les paradis fiscaux. Y'a comme un goût de crash-crash sur les gens des impôts. Me demande pas si j'aime la vie, j'aime le pouvoir plus que tout. Quand t'as Dupont Moretti, on le paye et qu'est-ce qu'il fout? Richard Ferrand, attention, prends un avocat de compète. Toi aussi François Fillon, ou tu vas choper perpète. Y'a comme un goût de trop petit, dans seulement 9 mètres carrés, on ne pourrait même pas y faire entrer Gérard Larcher. Y'a comme un goût de blabla, j'ai ces bâtards de médias. Y'a comme un doux justice, nous on nique la police. La République c'est moi, a dit Mélenchon le fou. Alors qu'ici tu vois, le Valois Perret c'est nous. Alors ouais ouais le fric, ouais ouais on trafique. Non non, c'est pas la loi qui nous a dicté nos codes. Non non, génération Zonzon. Alors ouais, je vous emmerde, même avec trois ans ferme. Non non, c'est pas la loi qui m'a dicté mes codes. On a dit que j'étais fragile, voilà du hardcore. Je reste à la tête de la ville, les Balkany bougent encore.
Frédéric Fromet, merci et bravo, quelle performance. Vous n'avez pas facilité la tâche. Hein. Merci beaucoup Frédéric. Juliette, cette heure passée ensemble a filé comme un bas. Mais on a une paire de rechange pour demain. Une belle paire d'invités. Il y aura Arnaud et Myriam Leroy, écrivaine. Oh, dis donc, c'est une spéciale belge.
Oh, vous êtes bien fait.
À demain.